Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h44, si vous voulez nous donner votre avis sur ce confinement ou pas de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, 0826-300-300, on en parle avec Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy dans un instant. En attendant, c'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, alors les journaux reviennent forcément sur ces annonces. Mais qui sont attendus. Hein. Donc, on commente ce qui n'est pas encore annoncé.
Forcément, des titres alambiqués, vous l'imaginez, dans la presse ce matin, en tout cas, lors des choix. Ça, c'est le titre de la Dépêche du Midi face à la troisième vague. Le président, en tout cas, est résolu à prendre des mesures supplémentaires au cas par cas, région par région. Oui. Jean Castex affirmera justement quelles sont ces mesures ce soir à 18h en compagnie de son ministre de la Santé, Olivier Véran. En attendant, la Dépêche nous explique que l'Île-de-France se préparait déjà hier à un possible reconfinement dès ce week-end. De son côté, le Parisien aujourd'hui en France est moins catégorique. Confinement, le retour, mais cette fois-ci avec un point d'interrogation. Après Nice, Dunkerque et le Pas-de-Calais, de nouvelles restrictions sont attendues en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Toute la question est maintenant de savoir jusqu'à quel point. Hier, les débats ont été encore vifs entre Olivier Véran et Bruno Le Maire à l'économie. Ailleurs, on souffle un petit peu. Nouveau sursis, indique la Provence en photo. Un couple assis sur un banc face à la mer. La région ne connaîtra pas de nouvelles mesures sanitaires selon la Provence.
Oui, absolument. Alors, on poursuit avec la promesse à la une. Enfin, pour la Provence, on rappelle quand même qu'il y a dans les Alpes-Maritimes ce confinement le week-end et qu'il pourrait être prolongé, même si, comme nous le disait tout à l'heure un infectiologue, ça limite un peu, mais ce n'est pas suffisant parce que ça déborde dans certains services de réanimation. On poursuit avec cette promesse donc à la une de Sud-Ouest, tous vaccinés cet été. Point d'interrogation, j'irais moi.
Oui, en tout cas, alors lui, il le dit avec un point d'exclamation, puisque c'est le directeur général de la Santé de Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elbonne, qui annonce l'arrivée prochaine des vaccinodromes dans la région. Le patron de l'ARS qui répond aux sceptiques du vaccin avec une formule choc. Le pire effet indésirable du Covid, c'est la mort. Voilà qui est lancé, en tout cas, à la une de Sud-Ouest. Et justement, la vaccination aussi à la une de Var Matin. Cette fois-ci, la campagne du côté des officines qui a pris du retard, des pharmacies en attente, et ce, alors que le feu vert est attendu aujourd'hui pour l'AstraZeneca après sa suspension par mesure de précaution.
Oui, c'est ça. Alors, parmi aussi les titres en fait, des journaux ce matin, il y a ce fait divers qui est à la une de Midi Libre. Un metteur en scène qui a été poignardé en plein jour, en plein centre-ville à Montpellier. Il a été touché à la gorge. C'est Alain Françon qui est secouru par les commerçants après s'être effondré rue de l'Ancien Courrier. Le mobile reste une énigme. C'est la raison pour laquelle ce matin, on est quand même extrêmement prudent du côté de Montpellier. On y reviendra probablement d'ici demain. La crise sanitaire encore et ses repas contre la précarité à la une du Petit Bleu d'Agen.
Les étudiants d'Agen qui peuvent désormais profiter de 2 repas par jour à 1 euro, un dispositif souhaité par la ministre de l'Enseignement supérieur et donc mis en place localement par le CROUS. Des mesures impératives pour répondre à la problématique de cette précarité étudiante. Du côté de l'éclair des Pyrénées, un autre triste constat, l'hôpital d'Oloron mettra des semaines à se relever, référence ici à la cyberattaque dont a été victime récemment l'établissement. Un diagnostic est en cours, mais selon la direction, il faudra effectivement des semaines avant retour à la normale.
Oui, merci mon cher Benjamin Glaise. On poursuit. Nous sommes jeudi, la sortie aussi des hebdos. Nous sommes avec Étienne Jernel, directeur du Point. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Alors, double une, si je puis dire, finalement, pour vous, ce matin. Parce qu'il y a la une sur le jour où la Chine commandera. C'est un livre événement et l'enquête...
Shurei Mabupani, qui est un très, très grand intellectuel asiatique, ancien diplomate singapourien, qui nous explique concrètement comment ça va se passer, quoi. La suprématie chinoise, on sait que ça va devenir la première puissance mondiale. Oui. Il la connaît bien, il raconte. Il raconte d'ailleurs que les Chinois n'ont pas l'intention d'imposer un modèle idéologique, mais il va falloir quand même dealer avec eux. Oui. Et ça va pas être une part de cake.
Non, mais c'est vrai, et ça a déjà en partie commencé, si je puis dire. Là, j'ai l'impression que parfois c'est la Chine qui commande aujourd'hui. En tout cas, beaucoup des commandes des Français vont en Chine, si je puis dire aussi, avec l'ensemble. Et d'ailleurs, à tel point qu'il y a énormément de tensions, parce qu'il y a plein de secteurs aujourd'hui, les semi-conducteurs, dans l'acier, tous les gens qui travaillent aussi sur toutes les activités nautiques pour les piscines, etc., qui aujourd'hui ne peuvent plus avoir d'approvisionnement parce que tout est bloqué en Chine. Comme quoi, un an après le Covid, où on avait dit on va relocaliser, etc., ça n'a pas avancé. Et au contraire, puisque le secteur de l'industrie est complètement paralysé, enfin, ou en partie paralysé par ça. Mais, donc, il y a ce titre, Étienne Jernel, et puis, il y a le grand entretien de son retour. Le retour de qui? Potentiellement de Manuel Valls, c'est ça.
Mais oui, il sort un livre chez Grasset dont le titre est « Pas une goutte de sang français », qui raconte, c'est un livre très intime, hein, qui raconte son histoire, Barcelone, l'amour, son père, la peinture, son amour de la France, Michelet, Clémenceau, mais également Blanche Gardin, il est assez étonnant. Ouais. Et puis effectivement, c'est un livre de retour politique, il dit « Je reviens dans la vie politique française ». Sans être candidat à rien, d'ailleurs, quand on est candidat à rien, ça veut dire plus ou moins qu'on est candidat à tout.
Ah oui.
Donc c'est pas un acte de candidature à la présidentielle, mais ça veut dire qu'il n'était pas vraiment complètement parti, parce que sur les sujets importants, il a toujours été là. Mais il faut bien dire une chose, c'est que Valls, il a eu raison, avant les autres, sur beaucoup de sujets. Sur l'islamo-gauchisme, sur la laïcité, sur toutes ces grandes questions qui nous déchirent, et qui déchirent la vie politique, en particulier à gauche aujourd'hui. Il était en avance de phase. Alors, sa carrière politique a connu quelques déboires en France, mais c'est venu au journal hein, pour cette interview, Valls. Je l'ai vu, j'ai bien vu, c'est un type un peu cicatrisé maintenant, un peu comme Sarkozy, après d'ailleurs, ses déboires à la fin des années 2000, 90. Il était, c'est un type intéressant qui a eu raison sur beaucoup de sujets avant les autres et qui revient maintenant dans la vie politique et qui compte peser. Je pense qu'il va le faire d'ailleurs. Il est d'ailleurs dur parfois avec lui-même hein, sur ses erreurs, sur ses. Il est parfois gentil, parfois dur avec Macron, en tout cas pas systématique. Il va compter, Valls, il va peser.
Oui, oui, absolument. Donc, interview très intéressante à lire dans Le Point. Merci, Étienne Jernel. On va en parler aussi dans un instant avec Françoise Degoy et Elisabeth Lévy. Le Point, donc, le jour où la Chine commandera.
Et vos appels, 0826 300 300, vous attend au standard à tout de suite.
Oui, Françoise Degoy, Elisabeth Lévy, j'ai envie de vous faire réagir quand même, Françoise, sur ce que disait à l'instant Étienne Jernel. Est-ce que Manuel Valls peut revenir et compter dans...
Il compte pour Étienne Jernel, c'est-à-dire qu'il compte pour la droite, Manuel Valls.
Oui. C'est une partie de la gauche, peut-être, non?
Non, il est haï par la gauche. La gauche qui pourrait
Quelle
l'aimer,
gauche
elle est déjà chez Macron, vous comprenez ce que je veux dire Manuel Valls, il est considéré comme... avec les frondeurs, parce que je n'enlève pas la responsabilité des frondeurs, comme le fossoyeur en chef du quinquennat de François Hollande et de François Hollande. Donc, il y a François Hollande, il y a mis du sien. Mais je veux dire par là que, voilà, Emmanuel Valls n'a plus
c'est
aucun
marrant,
intérêt. Non, mais après, la droite l'adore, mais c'est tout à fait normal que la droite l'adore.
Non, mais c'est marrant.
Je termine.
Françoise termine.
Moi, je veux bien aller sur tous les terrains de Manuel Valls et je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses, la laïcité, etc. Mais il va trop loin. C'est-à-dire qu'au nom de son existence politique, il a mis les marqueurs beaucoup trop forts. On ne parle pas d'apartheid, on ne parle pas de guerre des races, tout ça n'a pas de sens. Et puis, il est. Voilà, il a fracturé, il a rendu impossible et quasiment irréconciliable de gauche. C'est lui aussi, c'est en faisant le constat, il a également participé de cela. Ouais. Et donc, je pense qu'il pèse 0 plus 0 la tête à Toto. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident.
Bon.
À gauche. À droite, pas de problème.
Elisabeth,
la droite l'adore.
Ça, on aura entendu que ce pauvre Valls doit être accablé parce qu'en fait, il est aimé par la droite. Mais ça, voilà, Françoise vient de résumer la faillite de la gauche. Alors, non, je vais finir, Françoise.
Ouais, ouais. Allez-y.
Vous allez me répondre. Non, vous venez de le résumer, à mon sens, la raison de la faillite de la gauche. Pourquoi ? Alors, je suis d'accord avec vous, à la fin, je pense que si Valls aura du mal à jouer un rôle, mais plutôt à cause de sa chimie personnelle. C'est-à-dire que, y compris parmi les gens, disons, qui sont absolument d'accord avec lui, je pense qu'il n'a pas laissé que des bons souvenirs. Il doit être dur dans le travail.
Je vous confirme.
Voilà. Mais attendez. Oui. Ce qui m'importe là-dedans, c'est que le procès qu'on fait à Valls politiquement, c'est vous qui avez fait perdre François Hollande, etc. C'est celui qu'on faisait à Chevènement. Et c'est toujours la même gauche, en fait, parce que je suis navrée de vous dire, ma chère Françoise, même si elle est réduite aux acquets, et d'ailleurs vous devriez vous en soucier, il existe une gauche républicaine et Valls peut tout à fait l'incarner. Je veux dire, la question de la laïcité, la question de l'islamisme, etc., me paraît suffisamment importante pour qu'effectivement ce soit peut-être un clivage plus important aujourd'hui que ça voir si on est social-libéral, etc., etc.
Ouais.
Et non, mais moi, je suis frappée de voir que la gauche est encore en train de se tirer des balles dans le pied en ne voyant pas si vous voulez, que son salut est là. Elle ne peut pas renoncer encore à la laïcité.
Réponse de Françoise.
Elisabeth, arrêtez, s'il vous plaît, soyez sympa avec ces caricatures. La gauche, vous savez, la gauche, elle a fait son aggiornamento depuis bien longtemps sur la laïcité. Quand je dis que Valls l'a poussée à l'extrême.
Je ne suis pas sympa avec mes caricatures, mais je suis trop bête.
Non, j'ai pas dit que vous étiez bête, mais vous connaissez pas bien la gauche en réalité. La gauche n'est pas.
Je connais rien.
Non, c'est pas ça.
Allons-y.
Elisabeth, je veux juste dire une chose, c'est qu'il n'y a pas Valls, la bonne gauche valsiste d'un côté, et la mauvaise gauche mélenchoniste de l'autre. C'est beaucoup plus complexe, mais ce n'est pas vrai. C'est juste là que vous vous plantez complètement. Ça n'est pas exact. Vous avez entre les deux, moi par exemple, j'ai voté Chevènement en 2002, je peux le dire, pour son côté républicain, le hussard de la République, ça m'allait très bien, mais il y a quelque chose dans Manuel Valls qui l'a poussé à l'extrême, à l'excès, le type qui, quand même, dans le même temps, passait dans sa banlieue à lui, à Évry, en disant tu mets des blancos, des chicas, etc. C'est insupportable. Il y a quelque chose.
Bon
oui, non, mais il y a quelque chose chez Manuel Valls.
Je voudrais répondre sur les blancos.
Non, je termine en disant que vous simplifiez beaucoup trop l'histoire. Ça n'est pas binaire.
Je suis bête et simplificatrice.
Ça n'est pas binaire, la vie. Et la gauche, surtout, ne l'est pas. Malheureusement, elle ne l'est pas.
Bon, merci pour vos leçons de nuance, ma chère Françoise. Mais excusez-moi, je voudrais vous répondre sur deux choses. Je vais quand même vous répondre sur deux choses que vous aimiez, mais que vous n'aimiez pas Valls, c'est pas le problème.
Quand Valls
a dit « Je voudrais des blancos », c'est bien, excusez-moi, je veux dire, il anticipait sur quelque chose qui est devenu évidemment beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, il y a certains quartiers où il n'y a effectivement plus du tout de blancs. Je veux dire, et c'est un problème, y compris d'ailleurs pour les mères d'élèves qui demandent des blancs dans les écoles de leurs fils. Donc ça ne me paraît pas du tout pendable d'avoir dit cela. Je dis encore une fois, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait vous obstinez parce que vous n'aimez pas Valls, parce que
je n'aime pas sa ligne. Je suis désolé. Vous le dire.
Françoise, vous avez répondu.
Il a été un des plus fervents soutiens de Ségolène. J'ai travaillé avec Manuel Valls dans les campagnes Ségolène. Ne me parlez pas, c'est pas personnel. Je pense que c'est excessif, c'est un fracasseur. Ce n'est pas un créateur d'unité. Désolé.
Allez, Elisabeth Lévy, terminée. Elisabeth.
Écoutez, c'est pas possible de discuter là-dessus. Si, de toute façon. Puisque elle va me dire, mais vous connaissez pas la gauche. Eh bien, excusez-moi, il me semble que je la connais certainement pas de l'intérieur, comme vous, ma chère Françoise. J'observe néanmoins, d'accord, qu'aujourd'hui, il y a un grand clivage à gauche sur cela, et je voudrais vous répondre sur un autre point. Quand Valls a parlé d'apartheid, en réalité c'est moi qui étais furieuse, c'est la gauche républicaine qui était furieuse. Pourquoi ? Parce que c'était encore accuser l'État français, accuser la France. Donc là il était plutôt à contre-emploi par rapport à sa ligne.
C'est pour ça que j'étais très en colère, c'est d'estimer que la France est un État raciste, enfin, faut pas exagérer.
C'était pas ultra-république, c'était pas sa ligne hyper-républicaine ou trop-républicaine ou laïciste, etc. C'était autre chose.
Bien sûr, je suis d'accord.
Mais encore une fois, ce qui me chagrine pour moi, c'est que précisément l'espace qu'il y a à côté de la gauche mélenchoniste est en train de se réduire beaucoup. Malheureusement, je vois bien que cette gauche-là républicaine n'arrive pas à percer, et ça me chagrine qu'on laisse à la seule droite, si vous voulez, ces thématiques-là. Mais encore une fois, Françoise, là où je suis d'accord avec vous sur la conclusion, c'est-à-dire effectivement l'impopularité de Valls, y compris au printemps républicain par exemple, j'ai pas l'impression que ce soit... L'impopularité de Valls est certainement difficile à combler, surtout après son départ en fait.
Oui, allez, merci sur ce sujet. Je vous propose de lire l'interview puis vous en reparlerez,
autour d'un café. De toute façon, à la fin, on tombe toujours d'accord sur la République, pas toujours.
Avec Elisabeth, allez, bien sûr, on se retrouve dans un instant, on va parler confinement, et puis tout à l'heure aussi, un rendez-vous. Notre invité à 9h15 jusqu'à 10h15 avec vos appels, l'éloge de l'assimilation. C'est un prof de philo qui nous vient d'Alsace et qui avait déjà écrit d'autres livres autour de ce sujet. Vincent Coussedière, c'est très très bien, il revient en détail et il nous remet la vérité en face sur l'immigration, ce que c'est, pourquoi, comment on doit la voir, comment on doit l'aborder, et puis ensuite l'assimilation qui a été rejetée au profit à un moment donné de l'intégration qui n'a pas fonctionné. Enfin, il étudie, il décortique tous ces mécanismes. C'est passionnant, il sera avec nous tout à l'heure à 9h15.
Et on revient dans un instant. Tout de suite, on fait un point sur les infos. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h05, merci d'être avec nous avec vos appels au 0826-300-300. On va revenir hein, sur le confinement en Ile-de-France, toujours avec Françoise Degoye, Elisabeth Lévy. Et vous continuez de nous appeler. Et Dominique est avec nous
Dominique,
ce matin. Bonjour.
Au 0826-300-300, je rappelle ce numéro en fait à chaque fois parce que c'est le vôtre, hein, évidemment. Oui, Dominique, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Oui, on vous entend très bien.
Qu'est-ce qui... Françoise, Elisabeth.
Coucou, voilà, bonjour
tout le monde,
Dominique,
tout
on
le monde
est là.
Vous entend.
Dominique, ouais, même si on grogne, on est de très bonne humeur, en fait. on est des gentilles filles sous nos airs un peu patache, là.
Ouais, ouais.
Non,
mais
j'aime comme ça.
Ouais, c'est pour vous ça savez, qu'on les parfois, aime. Parfois, c'est difficile parce qu'elles ne se laissent pas parler l'une à l'autre. Elles ont tendance à se marcher dessus et on entend.
Et pourtant, elles s'entendent si bien.
Mais elles s'entendent très bien.
Oui, oui, elles s'adorent.
Mais c'est bon.
Comme la renne en foire.
Voilà. Bon. Dominique, vous voulez réagir, vous, sur les lits de réanimation et les hôpitaux hein?
Oui, parce qu'en fait, mon sujet du confinement, je ne suis pas super à l'aise. Je suis juste un peu étonné qu'il n'y ait pas des curseurs. Je sais qu'il faut s'adapter à chaque instant avec cette pandémie, mais on devrait quand même avoir certains curseurs qui nous préparent à tel ou tel événement. En fonction de étonné que ce soit au dernier moment qu'on y ait autant de suspense face à une décision pareille. Ouais. Moi, là où je voulais en venir, c'est peut-être complètement naïf, mais c'est la transparence vis-à-vis des structures de santé privées. À mon avis, ça représente un gros pourcentage en termes de lits total, et on n'en parle jamais. Alors, je sais qu'à la première vague, on n'a pas fait appel aux structures de réanimation des cliniques privées. Là, je pense que ça commence, mais pourquoi ce flou? Pourquoi on ne connaît pas le pourcentage de lits?
Alors, on essaie de donner à chaque fois, grosso modo, c'est entre 10 et 20%, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir quel est ce pourcentage exact. Mais ils ont à peu près, sur toute la France, donc il y en a beaucoup aussi sur l'Île-de-France. Ce qui s'est passé au moment de la première vague, c'est vrai qu'il y a des cliniques et des établissements privés qui ont proposé leurs services aux hôpitaux publics, donc aux agences régionales. Parfois, ils ont été entendus. À d'autres moments, ils n'ont pas été entendus et ils n'ont pas pu leur rendre service. Ça, on a des exemples très frappants. Depuis, ça s'est amélioré. Nous donnons régulièrement la parole, justement, sur Sud Radio, aux représentants des établissements privés. Lamine Garbi, pas plus tard que lundi dernier, il était sur notre antenne pour nous dire qu'aujourd'hui, ils avaient quand même des contacts et qu'il y avait des échanges et qu'il y a des transferts et qu'ils sont en mesure aussi de recevoir des malades du Covid. Quoi. Ça fonctionne un peu mieux. Mais ça dépend après des régions, Dominique, aussi, pour répondre précisément à votre question. Donc, non, mais c'est vrai.
C'est mon sentiment pour cette dernière vague. Mais quand même, quand on voit des hélicoptères médicalisés, des trains médicalisés, avions médicalisés qui partent de Paris, Île-de-France, pour aller sur Toulouse ou d'autres régions, il n'y a pas suffisamment de cliniques sur Paris
et non, de lits de réanimation dans les cliniques, il y en a. Mais de lits de réanimation, il y en a aussi. Mais la capacité et reste aussi limitée.
De toute façon, Dominique, ce qui est certain, c'est que vous en parlez avec tous les spécialistes réanimateurs. J'en parlais hier avec Bruno Mergarban, qui n'est pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Il disait, en réalité, ça, c'est épiphénoménal, les gens qu'on transfère. C'est tout petit. Et en plus de ça, contrairement au premier confinement, les familles ne veulent plus. Parce que c'est une galère. Elles veulent de moins en moins. C'est une galère terrible, ne serait-ce que pour des questions d'organisation également. Et puis, il y a la peur, finalement, que le voyage aussi...
Et c'est très difficile.
Abîme le malade. Ouais. Donc là, on est un peu aussi dans une opération de communication. Ouais. Entre transférer des patients et monter en 3 ou 4 jours un hôpital militaire, je ne vois pas bien la différence, en fait.
Mais là où vous avez raison...
on marche sur la tête.
Ouais,
hein,
là où vous avez raison aussi, Dominique, sur le manque de transparence, c'est vrai que nous avons un manque de transparence sur l'ensemble des lits aujourd'hui disponibles et ce que l'on aurait pu mettre en place et ce que l'on a fermé et la politique globale aussi, d'ailleurs, bien de sûr. La santé en France et puis en Europe, parce que vous avez entendu l'édito tout à l'heure d'Éric Revel, qui était avec nous à 8h25. C'est vrai que il y a certaines... La santé n'est pas véritablement une compétence de la Commission européenne de Bruxelles, et pourtant elle s'est octroyée, évidemment, un certain pouvoir là-dessus. On pouvait comprendre pour le besoin de la coordination. Ça dit, on est allé vers des aberrations, en fait, à tous les niveaux. Mais Je pense que quand on est le problème, Dominique. Et puis je vous donne la parole, bien sûr, Françoise, Elisabeth. Le problème, c'est que bien souvent, il faut anticiper et se préparer avant la guerre, si je puis dire. Et quand on est en plein dedans, bah alors c'est extrêmement difficile ensuite de prendre des décisions, quoi. Dominique, ouais. Je pense que voilà, on n'a pas une réponse précise à votre question parce qu'on n'est pas vraiment spécialiste, mais
on a la réponse.
Vous soulevez en fait un point qui est important.
On a la réponse
que j'aimerais avoir, c'est par exemple sur l'application Covid, pourcentage de lits dans le public, pourcentage de lits dans le privé. J'ai l'impression que c'est volontaire, cette transparence. Enfin, je sais pas,
non.
Ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est vraiment un problème entre les structures publiques et les structures privées
de coordination,
de coordination et même de politique, enfin de
Ou
est-ce que je sais pas, mais j'ai l'impression que
j'ai une hypothèse.
Mais... Allez, Elisabeth, oui.
Bah moi, j'ai une hypothèse qui est encore pire que ce que vous dites, cher Dominique, c'est que je crains qu'on ne soit pas capable de le savoir. C'est-à-dire qu'avec nous, notre grand bazar, nos ARS, nos ceci et nos cela, je ne suis pas sûre qu'on ait un système informatique simplement qui nous permette aujourd'hui, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait interopérabilité, comme on dit dans les armées, et donc même entre les hôpitaux publics, elle n'existe pas. Et j'ai le sentiment que ce n'est même pas un problème de « on veut vous le cacher », c'est qu'en fait, on n'est pas capable de le savoir avec précision au jour le jour, mais peut-être que je me trompe pour le coup, je n'en sais rien, c'est mon hypothèse.
En tout cas, si, ils ont mis en place, ils ont le système pour savoir exactement combien il y a de lits de réa, dans quel hôpital, ça ils savent, mais ça je suis d'accord absolument avec Elisabeth, c'est juste une impuissance administrative. Mais par contre, ce qu'il faut soulever comme problème, c'est la disparition des lits, c'est-à-dire que Olivier Véran, vous avez dit 12 000 lits de réanimation en juillet dernier, on apprend en lisant le Canard enchaîné, mais tout le monde, on n'a pas besoin de dire le Canard enchaîné, il y a à peu près 1200 lits qui ont été supprimés. C'est-à-dire que pendant que... pendant qu'on ne gère pas bien, pendant la crise, pendant qu'on lisait le papier du Canard, c'est vraiment affligeant. Et voilà, il se trompe assez peu, c'est assez fouillé. Et pendant qu'on est là à amuser la galerie, à promener le chien avec ses faux suspens, ce suicide chinois qui est insupportable, eh bien, la réalité, c'est que le travail, le rouleau compresseur continue d'une sorte de démantèlement de l'hôpital public.
Oui, d'ailleurs, L'Express a fait une bonne enquête qui paraît ce week-end, c'est la plongée dans l'administration sanitaire. Hein, c'est le naufrage bureaucratique, test
c'est
max.
Le mammouth, c'est le deuxième mammouth français. Il y a l'éducation et il y a la santé.
Exactement. Bon, allez, juste...
On est quand même très bien d'accord, c'est quand même le cœur du problème.
Hein, totalement. C'est au cœur, évidemment, de ce souci. Merci, Dominique, de votre appel. D'un dernier mot, Elisabeth, Françoise, on va reconfiner en Île-de-France ou pas ? Elisabeth.
Bon, moi, j'ai bien écouté François, je refuse donc de répondre à cette question. Parce que, pour le coup, ma chère François, j'étais totalement d'accord avec votre édito.
Alors, cette semaine. Cette semaine
était totalement ridicule, une fois de plus. Je veux dire, non,
ça n'a pas de sens.
Alors, on rappelle votre édito tout à l'heure.
Je ne veux pas faire de paris. Hein.
Que Emmanuel Macron décide encore de tout contrôler. Il n'a toujours pas tranché. Il fait son pari risque politique, risque et crédit. Il s'est enfermé dans une ligne. Combien je gagne, qu'est-ce que je perds si j'en sens pas. Et puis moi, je vais plus loin, mais Elisabeth, je sais pas si je vais plus loin. Je pense qu'il y a sa nature profonde, sa psyché personnelle, qui est de laisser tout le monde en suspens pour démontrer à quel point
ça
l'autorité, c'est lui. Et je crois qu'il y a ça de façon inconsciente.
Façon inconsciente, peut-être. Ouais. Ouais. Merci en tout cas.
Merci pour les compliments, Elisabeth.
Elisabeth, voyez comme quoi autour d'un café.
J'adore ces papiers, Elisabeth, même si je ne suis pas d'accord
Lévy,
avec elle parfois.
Françoise Degois, et vous, les auditeurs, absolument, 0826-300-300. Et vous allez pouvoir continuer dans un instant à appeler, où on va parler de l'éloge de l'assimilation.
Oui, qui lève le voile. En tout cas, c'est Vincent Coussedière, qui est professeur agrégé de philosophie essayiste, qui lève le voile justement sur ce tabou qui pèse sur la notion d'assimilation. On en parle dans un instant.
Oui.
Tout à l'heure aussi, on
va parler à 10h moins le quart avec vous, Cécile aussi, du e-salon de l'immobilier, puisque évidemment on ne peut pas aller aujourd'hui. L'immobilier reste évidemment déterminant dans la vie.
Surtout en ce moment.
Bien sûr. Et donc Corinne Joly, la présidente de PAP, sera là pour nous en parler parce que c'est une première édition 100% digitale et qui aura lieu demain.
Restez avec
demain et tout le week-end.
Oui, très bien. À tout de suite.